Lorsque l'on est journaliste, pouvoir retourner sur les lieux d'un événement marquant pour poursuivre son ou ses reportages, c'est toujours une chance. Pouvoir raconter une actualité quand elle ne fait plus la une des médias. C'est ce que vous allez entendre dans cet épisode qui nous ramène en Libye. Je discute avec Mathieu Galtier, l'un des correspondants de RFI en Tunisie voisine. En septembre 2023, il racontait sur notre antenne Derna, cette ville côtière de l'Est libyen qui venait de subir des inondations sans précédent. 9 mois plus tard, accompagné par les autorités, il est retourné dans cette localité et s'apprête à me raconter la reconstruction impressionnante et rapide de Derna. Pour rappel, les 10 et 11 septembre 2023, la tempête, surnommée Daniel, avait dévasté plusieurs zones de l'est du territoire libyen. Derna, qui comptait alors plus de 100 000 habitants, avait payé le prix fort, avec des milliers de morts et de disparus. Sous le poids de la tempête, 2 barrages qui étaient situés en amont de la ville avaient cédé. Les habitants qui étaient restés en vie n'avaient de cesse de dénoncer la responsabilité des autorités.
Je dors dehors, j'amène ma femme chez sa sœur le soir et je la récupère le matin. J'ai demandé à des militaires d'avoir une tente parce que je dors dehors. Les officiels civils, qu'ils dégagent tous. Nous voulons une Libye unie.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Le monsieur que l'on vient d'entendre, est-ce que tu t'en souviens? Il s'appelle Khaled et c'est toi qui l'avais interviewé.
Oui, exactement. C'était l'un des premiers habitants que j'avais interrogé sur place. Je l'avais remarqué car, en fait, il chauffait son thé sur un feu de bois au milieu de décombres. Et j'ai remarqué ensuite que sa femme dormait sur le siège passager de sa voiture qui était remplie d'affaires. La scène était vraiment saisissante. Et Khaled en avait profité pour m'expliquer qu'il ne savait pas s'il devait rester et tenter de reconstruire sa maison dont les fondations étaient encore debout, ou bien s'il devait partir s'installer ailleurs.
Tu as pu le retrouver là dans cette nouvelle mission ou pas ?
Non, malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé, mais je suis repassé devant son quartier où une route avait été reconstruite, mais sa maison avait disparu et à la place des travaux et des chantiers étaient en place pour reconstruire le quartier avec des nouvelles maisons et des fondations plus solides, j'imagine.
En tout cas, comme beaucoup d'habitants de Derna, il essayait, Khaled, de survivre dans le chaos laissé par l'eau. Il en voulait aussi beaucoup aux autorités locales. Pour ceux qui sont un petit peu perdus, Mathieu, Derna, c'est une ville qui est située dans une partie du pays qui est sous contrôle du général Khalifa Haftar, qui est un militaire et qui n'a pas les faveurs d'une majeure partie de la communauté internationale.
Oui, c'est ça, exactement. Khalifa Haftar, c'est l'homme fort de l'est de la Libye, la région cyrénaïque. Il lutte contre le pouvoir de Tripoli, la capitale de la Libye. Alors Tripoli est sous le contrôle du gouvernement dirigé par Abdelhamid Debeiba. Mais ce qui rend la situation encore plus compliquée, je suis désolé auprès des auditeurs, mais c'est que l'ONU reconnaît le gouvernement de Debeiba. Donc à Tripoli. Mais elle reconnaît en parallèle le parlement qui, lui, est installé à Benghazi, qui est contrôlé par Khalifa Haftar. Mais les Nations Unies ne reconnaissent pas la force armée de Khalifa Haftar, qui est pourtant donc soutenue par le parlement de Benghazi. Donc c'est un vrai scénario kafkaïen et très très difficile à comprendre. Mais ce qu'il faut savoir sur Derna, c'est que pour gagner en légitimité, Khalifa Haftar a fait nommer l'un de ses fils, Belgacem, à la tête du fonds de développement et de reconstruction de la Libye, qui a notamment en charge donc la reconstruction de Derna, mais pas seulement.
Ce monsieur, donc le fils de Khalifa Haftar en charge de la reconstruction, tu as pu le rencontrer, c'est ça ? Il dit quoi ?
Eh ben écoute, il a un discours très technique. Il se place vraiment comme une sorte d'ingénieur en chef du pays pour reconstruire Derna et le pays. On y reviendra peut-être tout à l'heure. D'ailleurs, Belgacem Haftar est un ingénieur de formation. Et le message qu'il veut le faire passer, c'est que lui, il est là pour construire des chantiers, faire commencer les chantiers et surtout que les réalisations soient achevées. Il veut prouver l'efficacité de son fonds et de sa stratégie. Quand j'étais sur place, son équipe adorait me noyer sur les chiffres, le nombre de ponts qui ont été reconstruits, d'écoles, d'hôpitaux. Pour Belkacem Haftar, le chantier de Derna, c'est aussi l'occasion de changer les mentalités. Derna a longtemps été considérée comme une ville conservatrice, refermée sur elle-même. Il veut, voilà, ouvrir la ville qui est surnommée la perle de la Méditerranée.
Tu m'as dit, ils t'ont noyé sous pas mal de chiffres. Est-ce que tu dirais qu'il y a eu aussi une volonté de t'en mettre un petit peu plein les yeux? Est-ce que quand on arrive dans Derna, par exemple, la reconstruction, elle saute vraiment aux yeux, d'autant que toi, tu peux comparer avec la situation de la ville il y a 9 mois?
Honnêtement, la ville a beaucoup changé. En septembre, tous les quartiers qui jouxtaient le lit de la rivière Derna, qui traverse le quartier ouest de Derna, c'était un terrain vague boueux sur des hectares et des hectares. Aujourd'hui, il y a des routes asphaltées, des bâtiments. C'est vraiment impressionnant. Après, pour peut-être nuancer un petit peu, c'est comme je disais, on partait d'un terrain vraiment vierge. Donc, ne construire ne serait-ce qu'une seule route ou qu'un seul bâtiment sur ce qui était de la boue, c'est très marquant visuellement. Mais il n'en reste pas moins que on voit d'énormes machines de construction, des grues, des tombereaux, des bétonneuses partout, avec le bruit qui les accompagne. Il y a vraiment énormément de chantiers et qui travaillent nuit et jour. D'abord parce qu'en journée, il fait très très chaud à Derna. En ce moment, on peut facilement atteindre les 40 degrés, donc c'est plus facile de travailler le soir. Et ensuite, le fond met la pression et le revendique. Un cadre m'a par exemple affirmé qu'ils avaient déjà viré 5 entreprises, dont des entreprises étrangères, parce qu'elles ne respectaient pas les délais.
L'idée, c'est quoi? C'est de reconstruire à l'identique, de reconstruire toute la ville, une partie de la ville seulement?
Non, c'est de reconstruire vraiment toute la ville. Ils utilisent beaucoup des immeubles et des chantiers qui avaient été arrêtés avant la Révolution. Mais il y a aussi de nombreux chantiers et de nouvelles constructions. Par exemple, les parcs et les jardins pour enfants qui n'existaient pas à Derna. C'était une ville conservatrice assez refermée et donc le fonds a décidé de multiplier ses jardins publics pour faire venir les familles dans les espaces publics avec des cafés et ça change beaucoup l'aspect de la ville de Derna, mais comme je disais aussi la façon de vivre pour les habitants.
Les habitants, justement, parce que l'idée, évidemment, j'imagine, en retournant à Derna, c'était de voir, évidemment, cette reconstruction, mais aussi d'entendre les habitants en parler. Est-ce que tu as eu le sentiment que cette reconstruction qui se fait à vitesse grand V, c'est aussi pour faire taire toute la colère de la population, puisque il y a quelques mois, on l'avait entendu et on l'a entendu au début de cet épisode dans tes reportages, les gens étaient très très en colère sur la vétusté du barrage qui a cédé et qui a donc accentué ces inondations.
Oui, mais aujourd'hui, les habitants sont satisfaits et surtout, ils le disent eux-mêmes, ils sont surpris de la rapidité des travaux et agréablement surpris. Ils ne pensaient pas que ça irait aussi vite. Donc, c'est effectivement, pour le fond, c'était un succès et c'était l'un des objectifs. Mais l'autre objectif était aussi de montrer aux Libyens dans leur ensemble, donc même aux Libyens qui habitent à l'ouest, que eux étaient capables de réaliser de grands travaux rapidement, contrairement au gouvernement de Tripoli. Et il y avait aussi un troisième objectif, c'était de montrer à la communauté internationale qu'ils pouvaient être des partenaires fiables, capables de réaliser de grands projets et, en parallèle, de faire signer de gros contrats aux multinationales.
On entend bien qu'il y a aussi une vraie volonté politique derrière tout ça, puisque tu nous as rappelé le contexte complexe, d'ailleurs, en début d'épisode, et des chantiers. J'imagine qu'il y en a aussi ailleurs. Est-ce que ça se voit quand tu as pris la route, toi, entre l'aéroport et Derna, puisqu'il n'y a pas que cette ville qui avait été concernée par les inondations?
Oui, oui, exactement. Et ça concerne même toutes les villes, pas seulement celles touchées par la tempête Daniel. En premier chef, Benghazi, donc la capitale de la région qui n'a absolument pas été touchée en septembre, mais dont les grands travaux sont en cours pour reconstruire le stade, moderniser les universités. Le centre-ville aussi, qui avait été entièrement détruit entre 2014 et 2017 lors de la guerre entre les forces de Khalifa Haftar et les groupes terroristes. Donc il y a un vrai changement aussi sur Benghazi et sur la route, comme tu disais, il n'y a pas une ville traversée, on ne voit pas des grues pour reconstruire une école, un hôpital, des ponts aussi tout simplement, parce que la route pour accéder entre Benghazi et Derna, il y a de nombreux ponts, c'est assez vallonné. Donc il y a des projets partout et aussi des projets un peu à l'écart, je dirais. Par exemple, il y a le site antique de Cyrène qui est classé à l'UNESCO, qui a été délaissé pendant des décennies et des décennies. Il y a un grand projet de réhabilitation, de construction de ports de plaisance aussi pour faire venir des... Alors comme on m'a expliqué, pour faire venir la jet set méditerranéenne qui pourrait venir en dans leur bateau, leur yacht de luxe. Mais peut-être un des exemples les plus flagrants se situe très 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 loin de Derna, c'est à Mourzouk, à plus de 1300 km au sud-ouest de Derna, où en fait, il y a quelques semaines, le fonds a entamé des travaux de rénovation, à une condition. Alors Mourzouk, il faut savoir, c'est une ville qui est là aussi depuis des décennies et des décennies, aux prises entre la rivalité entre l'ethnie Toubou et des tribus, une tribu arabe dominante locale. Et le fonds leur a dit, nous, on vous propose de reconstruire la ville, de moderniser la ville, à condition que vous signiez un accord de cessez-le-feu, de réconciliation. Et effectivement, cet accord a eu lieu il y a quelques jours. Pour être très honnête, cet accord, et notamment à Mourzouk, il y en a eu beaucoup depuis des années. Ça n'a jamais tenu très longtemps. Parfois, c'est des accords qui durent à peine quelques heures ou quelques jours. Mais peut-être que maintenant, via cette politique du béton, cet accord se révélera plus efficace. Donc voilà, c'est à voir. Il y a aussi Belgacem Avtar qui adore raconter et montrer sur son téléphone que les maires des villes de l'Ouest l'appellent directement pour lui demander de l'aide.
Mathieu, tu sais, dans Témoins d'actu, alors j'aime bien comprendre les pays dont on parle, et puis j'aime bien également que les journalistes qui partent en mission me racontent comment ils travaillent. Et pour la Libye, on sait que c'est un peu compliqué. Comment, cette fois-ci, tu as pu te rendre sur place? Parce que je me souviens, en septembre, pour toi, ça avait été difficile.
Oui, effectivement, c'est très compliqué de se rendre sur place. Donc en fait, ce qu'il se passe, c'est que l'armée de Haftar envoie un papier disant qu'ils invitent, en quelque sorte, les journalistes. Et donc c'est ce papier qu'on donne directement à l'agence, à la compagnie aérienne, à l'aéroport, pour qu'ils nous laisse embarquer.
C'est une sorte d'autorisation, en fait.
Voilà, c'est une sorte d'autorisation. Alors, c'est une autorisation même sécuritaire, puisque ça émane des services de renseignement de l'armée de Haftar. Et ensuite, une fois sur place, j'ai été pris en charge par le fonds. C'est-à-dire que c'était le deal négocié en amont, c'est-à-dire qu'ils acceptaient de me donner cette autorisation à condition de couvrir la reconstruction. Au départ, moi, j'avais demandé à pouvoir faire d'autres sujets sur la migration, sur les divisions politiques, sur les questions pétrolières, justement. Alors, on ne m'a pas dit non. On m'a juste dit, ton autorisation est pour 5 jours, donc ça laisse pas le temps de faire autre chose. Mais évidemment, la prochaine fois, tu pourras revenir et faire tout ce que tu veux sans aucun problème. Mais là, pendant ces 5 jours, effectivement, je n'ai pu faire que la reconstruction. Surtout qu'il y avait à chaque fois quelqu'un du fond, et le chauffeur de la voiture était un membre de l'armée de Khalifa Haftar. Donc voilà, c'était une arrivée très contrôlée et un séjour également assez contrôlé.
Assez encadré, bon, ça vaut dans d'autres pays du monde, évidemment, mais ça nous permet quand même, nous journalistes, de pouvoir aller dans des endroits où sinon on ne peut pas se rendre, dont on ne peut pas parler. Est-ce que ça veut dire qu'on peut quand même travailler librement? Est-ce que tu as pu rencontrer les gens que tu voulais, ou tout ça se fait quand même sous contrôle?
Non, il a été possible de parler aux gens librement. Dans les cafés ou dans les lieux publics, je les interrogeais sans militaires autour de moi. Déjà parce que les autorités savaient que globalement la population est plutôt contente. Voilà, il faut être réaliste. S'ils nous ont aussi invités, c'est parce qu'ils ont vu que la population réagissait plutôt bien aux travaux qui étaient faits. Il y a aussi une autre raison, c'est que comme je disais, Derna, c'est un peu une ville particulière à l'intérieur même de la Libye, du fait de son histoire. Donc la population elle-même, elle n'a pas trop tendance à parler et à s'exprimer librement, encore moins devant des journalistes étrangers. Quand je dis librement, je veux dire qu'il voilà, y a une certaine pudeur déjà de base. Donc je pense que les autorités là-dessus n'étaient pas trop inquiètes sur le fait que quelqu'un allait se saisir du micro pour jouer les opposants. Les rares opposants sont rapidement emprisonnés. Donc voilà, mais pour revenir sur les gens de Derna et les gens que j'ai pu interroger, oui, j'ai vraiment senti qu'ils disaient vraiment ce qu'ils pensaient, parce qu'ils, encore une fois, ils étaient plutôt Surpris et agréablement surpris par la rapidité des travaux effectués.
En tout cas, c'est un pays que tu connais bien, donc tu as moyen, j'imagine, de faire la part des choses entre une parole qui serait un peu forcée et une parole qui serait plus libre.
Oui, oui, effectivement, surtout que Derna, moi, par exemple, je m'y étais rendu en 2013. Donc avant l'arrivée de l'État islamique, et déjà c'était compliqué sur un sujet en plus, enfin c'était des sujets très faciles entre guillemets, c'était sur le côté culturel et l'héritage culturel de la ville, et c'était difficile en fait de parler aux gens, parce que comme je disais, ils ont pas l'habitude de s'exprimer, notamment avec les étrangers, et c'était ne serait-ce difficile de savoir où pouvoir parler, parce que comme je disais, il y avait pas de café, pas vraiment de lieu public. Les gens n'acceptaient pas forcément de nous accueillir chez eux, donc je sais que Derna est déjà par principe une ville assez difficile pour parler aux gens, donc de ce que j'ai pu là constater quand j'étais, donc il y a 10 jours maintenant, ce n'est pas pire qu'avant, c'est juste difficile, mais parce que Derna est une ville assez compliquée.
Merci beaucoup en tout cas Mathieu d'être venu me raconter tout ça dans Témoins d'Actu, et puis on écoutera évidemment tes reportages dès qu'ils seront disponibles sur RFI, et comme d'habitude je mettrai les liens dans la page dédiée du podcast Témoins d'Actu. Merci Mathieu. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas, vous le savez, à le partager. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, disponible également sur la chaîne YouTube de RFI. À très vite.